L'église Vase d'honneur Québec, Assemblée Expression d'amour, a le plaisir de vous présenter le pasteur Lorenzo Cavallaro. Nous vous convions par le biais de ce message de laisser votre esprit être nourri et encouragé par la parole de Dieu.
Alléluia. Là, nous sommes en train de voir une porte et cette porte s'appelle Zabulon. Alléluia. Et Zabulon, c'est la victoire sur vos ennemis. Alléluia. Et dans Deutéronome au chapitre 28, verset 7, le Seigneur nous déclare ceci dans la bénédiction numéro 5. Alléluia. Avant Zabulon, il y avait qui? Non, attendez. Avant Judas, il y avait qui? Mantabrasekebros. Alléluia. Et les décoratrices là, mettez les noms des tribus à partir de là-bas. Hein, commencez par Ruben, amen, hein, Ruben, et puis Simeon, Lévi, Judas, et puis au fur et à mesure. Comme ça, les gens, ça... Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, depuis le dimanche dernier, nous avons commencé à voir cette bénédiction. L'Éternel te donnera la victoire. Dis à ton voisin, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi, voisin, par sept chemins. Voisin, dis amen. Amen. Alléluia. Alors, depuis le dimanche dernier, nous avons commencé. Aujourd'hui, je vais reprendre un peu Goliath. Nous avons commencé à étudier cette bénédiction de l'Éternel. Nous avons dit que dans la première des choses, c'est que Dieu nous dit qu'il y a la présence d'ennemis, mais aussi Dieu nous donne la capacité, il nous donne l'assurance que ces ennemis-là, lui, il va les vaincre pour nous. Il n'a pas dit ici, tu vas vaincre tes ennemis. Il dit, je vais les vaincre pour toi. Alléluia. Et lorsqu'il était en train de bénir notre ancêtre Abraham, il lui a dit, je te donnerai la porte de tes ennemis. Donc, ça veut dire que, quelles que soient les difficultés qui viendront devant toi, Dieu te bénira toujours. Il dit ici, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous avons commencé à voir le dimanche dernier. Et le dimanche dernier, nous avons vu, nous avons dit qu'il y avait cinq formes. C'est cinq ou c'est quatre? Ok. Parce qu'il y a des gens qui oublient vite. Hein. Alléluia. Il y a cinq formes d'adversité. Dimanche dernier, nous avons comparé les ennemis avec qui? Les adversaires. Amen. Qui peut me donner qu'est-ce qu'un adversaire, qu'est-ce qu'un ennemi? Ok. Mais en gros, c'est ça. Alléluia. Donc, dans le mot ennemi, on peut décaler deux mots selon Samuel qui nous dit que Dieu a donné à David la victoire sur ses ennemis et aussi sur ses adversaires. Alléluia. Il y avait des personnes qui affrontaient David frontalement, tels que Saül. Amen. Mais il y avait des personnes qui étaient dans l'ombre, comme Abner. Amen. Qui poussait des gens à se rebeller contre David. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, un ennemi n'est pas très visible, mais il est très nuisible. Mais un adversaire, il est plutôt frontal. Tu le connais. Tu sais que ce gars-là, il te veut du mal. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. L'ennemi de nos âmes. L'âme, tu ne le vois pas, mais il y a un ennemi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, nous avons vu dimanche qu'il faut comprendre les méthodes de Dieu pour pouvoir vaincre les ennemis de nos âmes. Amen. Et nous avons vu Éphésiens 6, verset 12, que nous allons lire. Tout à l'heure, nous allons lire un verset avec la Bible où nous allons tenir debout, un long verset. Donc après, toi, mets ta Bible pas loin de toi. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 12, la Bible dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre quoi ?» La chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. voyez ici, il nous dit, le Seigneur, que tu, c'est même pas la peine. Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, c'est pas la peine de te lever contre la chair. C'est-à-dire, les colères inutiles pour l'insulter, là. C'est pas ça la solution. Amen. Si tu as un problème avec un subbaptême, tu lui donnes l'ordre, tu lui donnes les instructions, tu lui dis fais ça. Alléluia. Mais quand tu as un problème avec quelqu'un, ou bien tu as un ennemi dans ta vie ou un adversaire dans ta vie qui est un humain, ne te lève pas contre sa chair ni le sang, parce qu'il est semblable à Dieu. La Bible dit qu'il t'a créé parfait. Dieu aime tout le monde. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu ne désire pas que le pécheur périsse, mais qu'il parvienne à la repentance. Donc, le Seigneur aime tout le monde. Alléluia. Mais dans tout le monde, il y a des personnes qui sont ses fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alors, lorsque tu as un problème avec une personne, évite de te lever, pour porter un jugement sur la personne. Il dit, le jugement m'appartient. À moi, le jugement. Ce n'est pas à toi. Lorsque tu portes le jugement sur l'homme, ça veut dire que tu te fais juge. Mais la Bible dit qu'il te sera aussi, voilà. La façon dont tu mesures, la mesure dont tu utilises pour mesurer une personne, cette mesure aussi sera utilisée contre toi. Alléluia. Donc, ne te lève pas dans la chair ni dans le sang pour combattre une personne. Il y a des méthodes pour le faire. Alléluia. Et le Seigneur va nous donner ici, contre qui tu dois te lever. Au lieu de te fâcher contre ton frère, fais pas là. Il y a des entités spirituelles qui sont dans l'air, qui influencent l'air. Il parle de domination. Une domination, ici il y a deux mots. Il y a domine et puis il y a nation. Alléluia. Nation ici, c'est quoi? C'est ethnos, qui veut dire, qui donne le mot ethnie. Hier, j'en parlais à la réunion qu'on avait faite. Alléluia. Qui veut dire un regroupement de personnes ayant le même ou un langage similaire, comme les Québécois, comme les Camerounais, les Américains aussi, comme les informaticiens, les infirmières, les... Dis ton métier. Les économistes, les musiciens, alléluia. Ils ont un langage. Un musicien, son langage, si tu es profane, tu ne vas pas comprendre. Un médecin peut te parler 10 phrases et puis tu ne vas même pas entendre un mot. Amen. Mais son collègue médecin à côté va comprendre. Donc, lorsqu'il se forme des ethnos, Satan délègue des dominations pour contrôler chaque ethnos. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Donc, lorsque tu veux parler à une personne, résoudre un problème avec une personne dominée ou bien ayant une ethnos sur lui, ce n'est pas la personne qu'il faut viser, il faut viser la domination. Et après, il nous dit, il y a des autorités. Les autorités sont des démons qui influencent en fait les systèmes de pensée tels que l'islam. Par exemple, une personne qui croit à l'islam ou au christianisme donne autorité à Christ, donne autorité à l'islam. Peu importe le pays ou l'endroit ou l'ethnos dans lequel il va se trouver, il aura une autorité sur lui, qui sera l'islam. Alléluia. Gloire à Dieu. Et après, je vais laisser les princes. Après, il dit, les esprits méchants sont les démons que vous connaissez, qu'on chasse tous les jours dans la maison de Dieu. Une domination ne se traite pas de la même manière comme un esprit méchant. L'esprit de sorcellerie est un esprit méchant. La colère, c'est un esprit méchant. L'esprit d'impudicité est un esprit méchant. L'esprit de vol est un esprit méchant. L'esprit de mensonge. Donc, si tu dis des mensonges, sache qu'il y a un esprit qui est derrière qui te pousse à dire le mensonge. Donc, l'esprit, il y a des enfants dans la salle, fornique avec toi. Et puis, tu accouches son enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et le Seigneur nous dit que on n'a pas besoin de se lever dans la chair contre une personne, mais contre ces esprits-là. Et ensuite, avance dans le verset, il va nous dire que, à partir du verset 11, il dit, « Revêt-toi de toutes les armes de Dieu, que j'ai bien expliqué le dimanche dernier, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. » Ici, il dit les armes de Dieu. Voici pourquoi Dieu dit, « Il va te donner la victoire sur tes ennemis. » Il y a des ennemis que tu es incapable, incapable. Un démon rentre dans la salle, tu es tétanisé. Il y a des présences d'êtres quand ils arrivent dans ta chambre. Frère, c'est comme si on t'a scotché, ils ont mis formol sur toi. Tu ne peux pas bouger. Face à un tel démon, il y a une façon de combattre. Amen. Donc, s'il y a une domination qui agit contre toi, il y a une façon. S'il y a un esprit méchant, il y a une façon. Voici pourquoi Dieu va dire de prendre ses armes. Les armes qu'il dit de prendre ne sont pas tes armes. C'est une erreur de penser que c'est l'armure du chrétien. Ce n'est pas l'armure du chrétien, c'est les armes de Dieu. Voici pourquoi on continue. Il nous dit ici, il va nous dire, il va commencer à citer les armes. Dis-moi, Génie, vous avez tout. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre... Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. On continue. Tenez donc ferme, ayez à vos reins, quoi? Il n'a pas dit la ceinture de vérité. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il dit, ce qui est une ceinture pour toi, c'est que tu marches dans la vérité. Donc arrête de croire. Je mets la ceinture de vérité. Frère, ce n'est pas la ceinture. C'est la vérité qui est pour toi une ceinture. On continue. Ensuite, il dit quoi? Revêtez la cuirasse de justice. Une cuirasse, c'est quelque chose pour fermer sa poitrine. Alléluia. Pour que l'ennemi ne te frappe pas là où il y a le cœur. Et la cuirasse qui est pour toi, hein, ce qui est pour toi une cuirasse, c'est quoi? C'est la justice de Dieu. Nous avons déjà vu dans cette église, on a enseigné sur la justice. Les œuvres justes des saints, on en a parlé ici. Et ce qui est pour toi, qui va venir te protéger, c'est la justice. Et c'est ce que David a utilisé. Ensuite, il va dire, mettez la chaussure pour chaussure. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile de paix. Donc, le zèle de l'évangile est pour toi une chaussure. Donc, quand tu es en train de dire, je vais aller prier là, je vais aller combattre, je porte la chaussure du zèle, et puis tu vas combattre, c'est faux. Tu ne touches même pas un démon. Il dit, pour que le démon tombe, revêt-toi de zèle, va évangéliser. Voici pourquoi Jésus, lorsqu'il envoyait les disciples deux à deux, quand ils sont partis, au retour, ils ont dit au Seigneur Jésus, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Jésus va leur dire, j'ai vu Satan, je voyais Satan tomber du ciel. Donc, bien aimé, là, c'était une façon très erronée de comprendre ce verset. Voici pourquoi on va voir rapidement Goliath. Et quand on va arriver sur l'adversaire de l'autorité, David va utiliser ses armes. David va utiliser ses armes. Et c'est ses armes qu'il a utilisées pour vaincre son adversaire Saül. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une forme d'adversité. Goliath. Dis avec moi Goliath. Prenons ensemble 1 Samuel 17. Waouh, le temps est parti vite. C'est ce que je voulais qu'on puisse lire ensemble. Mais on va lire rapidement sur... On va lire ensemble, peuple de Dieu. Les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre. On va le lire parce que tout le reste découle de cela. Amen. Les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soco et Azeka, à Éphèse d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébintes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. C'était un V. OK? Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança contre les deux armées, entre les deux armées, et il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un néphon. Sur sa tête était un casque des reins et il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles des reins. Ça, c'est les enfants d'Israël qui ils sont sur l'autre montagne, loin là-bas. Hein. Puis ils calculent, ils savent le poids de l'armure de Saül. Il avait aux jambes une armure des reins et un javelot des reins entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue. » On continue. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut et saisi d'une grande crainte. Voici l'effet de Goliath. Oh, dis avec moi, oh. Avec Dieu, il y a toujours un or. Quand Dieu te choisit, il met toujours un or. Quand Dieu a sa main sur toi, il met toujours un or. Quand Dieu t'a identifié, il met toujours un or. Or, David était de ce... Bon, allez-y, je suis fatigué. Avancé en âge. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ses trois fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin, prit sa charge. Alléluia. C'est des choses qu'on ne lit pas, qu'on s'arrête pas dessus quand on lit la parole de Dieu. Tout à l'heure, il a dit, il a donné aussi des présents aux chefs de 1000. Peut-être que vous êtes passé dessus, vous n'avez pas vu. Alléluia. Il dit, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge. Il a pris ça comme une mission particulière. Il a pris ça comme un fardeau. Prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangées de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, Voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Or, ils tinrent les mêmes discours que précédemment, les quatre derniers jours. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël ont fait quoi? S'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Mandebros. On continue. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on? Il a bien entendu, mais dit, que fera-t-on? Donc, quand tu vois une opportunité, arrête-toi et puis dis, tu dis quoi? Je veux bien saisir. Alléluia. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël, qui est donc ce Philistin, ce incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour avoir voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna. Voilà, quand quelqu'un te décourage, quitte la personne. Ne lui dis plus tes choses. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que un enfant, il dit, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. On continue. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une des troupeaux, je courais après lui. Oh, c'est comme ça qu'il va courir contre Goliath. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de ce incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. On continue. L'Éternel qui m'a délivré, il se souvient de sa bataille, des griffes du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David ne comptait pas sur sa force. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Un roi fainéant. Comment tu peux laisser un garçon? Un petit garçon? Amen. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casse des reins et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cet ami. Je n'y suis pas accoutumé. Je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Amen. Tu ne peux pas combattre avec les âmes que tu n'as pas. Dieu va toujours vaincre les choses par les âmes qu'il a mises entre tes mains.
Et puis ici, regarde.
Ouais, depuis là, je n'ai pas coloré quelque part. Il dit, ici, il dit, il prit en main son bâton, choisi dans le torrent, cinq pierres polies. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre. On acclame la parole du Seigneur.
Amen. On n'a pas lu ça en vain. Tu vas comprendre pourquoi. Les caractéristiques de Goliath. Dimanche dernier, j'en avais parlé. Vous voyez, lorsque un Goliath se dresse devant toi, tu ne vois pas derrière. Goliath est comme une montagne. Tu ne peux contourner, tu ne peux aussi escalader. Tu as l'impression que tu ne peux pas. Dans la marche d'Israël, Israël s'est confronté à ce même Goliath. Les Égyptiens étaient contre, étaient en train de courir, galoper leurs chevaux pour venir contre Israël, pour arrêter Israël. Et qu'est-ce que Israël voit? Une mer devant eux, un Goliath insurmontable. Goliath dans la vie d'une personne est quoi? C'est quelque chose que tu ne peux pas surmonter. Aussi, quelque chose dont tu n'as pas forcément toi-même la capacité immédiate de pouvoir résoudre. Tel le célibat, tel le chômage. Le chômage, il faut que quelqu'un te donne un travail. Tel le mariage, il faut qu'on te demande un mariage. Avoir un enfant, il faut avoir la capacité de pouvoir enfanter. Ce sont des Goliaths qui sont dans la vie d'une personne et qui, lorsque ça perdure, tu as l'impression qu'il vient, hein, il vient faire quoi? Il vient te... Donnez-moi un mot. Se moquer de toi, mais il y a un mot là. Il y a intimidé, mais un autre mot. Hein? Nagé, merci. Non, tu es mon professeur là. Tu as l'impression que Goliath vient te naguer chaque jour. Malgré tes tentatives, il est là. Et puis sa voix encore forte. Gloire à Dieu. Mais pour que Dieu puisse vaincre un Goliath dans ta vie, Dieu ne compte pas sur ta force. Dieu compte sur lui-même. Et pour que Dieu déploie sa force dans la vie d'une personne, Dieu va passer par où? Par son cœur. Lorsqu'Israël était en train de choisir le premier roi, ils ont regardé à sa beauté. La Bible dit que Saül était beau de visage et grand de taille. Lorsque Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, la Bible dit... Donc, la première fois, ils ont choisi Saül comme ça. Quand il a vu Eliab, il a dit, « Ouh, certainement, voici le serviteur de l'Éternel. » Et Dieu va lui dire, « Je ne regarde pas aux hommes, mais je regarde au cœur. » Donc, lorsque Dieu veut déployer sa puissance dans la vie d'une personne pour détruire un Goliath, il passe par le cœur. Voyez-vous, l'arme que David va utiliser pour mettre dans la fronde, pour lancer. Moi, j'ai déjà utilisé une fronde quand j'étais enfant. J'ai déjà utilisé des lance-pierres pour taper des oiseaux. Parfois, même un gros caillou, tu tires, tu tapes, l'oiseau s'en va. La pierre pouvait taper Saül ici. Même sur sa tête, ça n'allait même pas, ça allait effleurer. Parce qu'on dit que c'est un homme de guerre. Ça veut dire qu'il est habitué à la douleur. Mais le caillou que David va envoyer, le caillou avait un mandat divin. Et pour que Dieu utilise une personne, il faut que la face de la personne ressemble à Dieu. Et pour que sa face ressemble à Dieu, c'est le cœur. Pour qu'un miracle de Dieu puisse s'accomplir dans la vie d'une personne, il faut que Dieu retrouve en la personne, lui, sa capacité. Il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Il n'a pas dit selon mes critères. C'est-à-dire que quand Dieu regardait le cœur de David, il voyait son cœur. Vous allez voir quand on va arriver dans l'autorité, c'est une seule personne qui a pu agir comme David dans toute la Bible, Jésus. David était un homme hors pair. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donc, pour vaincre Goliath, il faut avoir le cœur de Dieu, mais ne pas s'arrêter là seulement. Il faut avoir la marque de Dieu sur toi, son onction. Parce que ce qui va prendre la pierre pour aller cogner, la force qui sera dans la pierre n'est pas la force de David, mais la force de Dieu. L'onction, l'huile qui a coulé sur David. Pourquoi Saül avait peur? Parce que l'onction avait quitté Saül. Pourquoi David n'avait pas peur? Parce qu'il avait, il venait de recevoir l'onction. Lorsque Goliath se met devant toi, tous les enfants d'Israël face à la mer avaient peur, sauf lui qui avait reçu l'onction. Et vous allez voir, qu'est-ce qu'ils vont faire, les deux personnalités? La première des choses qu'ils vont prendre, ils vont prendre la verge. David va prendre la verge en premier. La verge représente quoi? Le bâton d'autorité. La verge représente quoi? L'autorité que Dieu te donne d'aller face à une situation. Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, ils n'ont qu'à se taire, et toi, lève le bâton, ton bâton. Dis avec moi, mon bâton. Mon bâton. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Dieu te met entre les mains un bâton. Alléluia. Et lorsque Dieu te met en main un bâton pour combattre, le bâton d'autorité est en toi. Dieu te donne la capacité de vaincre une situation. Lorsque la situation arrive, Dieu ne va pas aller chercher ailleurs pour venir résoudre. Il t'a donné un bâton d'autorité. Tu te lèves par la puissance et la connaissance de la parole que tu as reçue pour agir. Lorsque tu te plains, pour dire, dans ce pays, il n'y a pas de travail, et que tu commences à te plaindre, tu sais ce que tu fais? Tu transfères ton bâton d'autorité dans la main du gouvernement. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Lorsque Dieu a donné l'autorité à Adam, Dieu vient demander, qu'est-ce que tu as fait de l'autorité que je t'ai donnée? Il se plaint. Il montre. Vous savez, si Ève n'avait pas chuté, Ève allait être celle qui allait avoir l'autorité. Il transfère l'autorité à Ève. Ève aussi, à son tour, elle transfère l'autorité au serpent. Voici pourquoi le serpent a l'autorité sur les hommes. Dieu te donne, il met entre tes mains le bâton d'autorité de ta vie. Face à un Goliath, peu importe les circonstances, Dieu dit, il n'y a aucune tentation qui va venir devant toi que moi Dieu, moi l'Éternel, le Père des circonstances, celui qui sait d'avance. Il n'y a rien que moi, je ne te donnerai pas la capacité de pouvoir surmonter. Impossible. Vous savez pourquoi est-ce qu'on souffre? Parce que lorsqu'une situation arrive, un Goliath arrive, on est intimidé, on est tétanisé, on a peur, on est givré. C'est-à-dire qu'une fois que tu es givré, ton cerveau ne se met plus en marche. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Tu regardes Goliath, tu calcules sa taille. Tu commences à mesurer sa taille. Il fait 3 mètres de haut, moi je fais 1m60. 1m70, 1m80, qu'est-ce que je peux faire devant un tel? À leurs yeux, à ses yeux, je suis comme une sauterelle. David seul a terrassé Goliath. Et par la suite, ils ont parlé de d'autres Goliaths, 3 Goliaths que ces hommes ont tués. Lorsqu'ils sont partis, lorsque Israël a quitté, ils n'ont pas dit qu'ils ont vaincu des géants. Pourtant, ils avaient vu des géants sur la route. La personne qui a été capable de tuer des géants était Goliath, était David et sa troupe. Parce que David avait communiqué l'autorité à ses enfants. Lorsqu'il y a une situation, évite. Vous avez un problème dans le foyer, évitez d'aller passer l'autorité de votre problème aux gens. Asseyez-vous la parole de Dieu et puis parlez. Avec la parole, vous allez vaincre la situation. Si vous voyez la parole, si vous prenez Éphésiens 6, que que vous regardez les âmes que Dieu te donne, que tu commences à développer. Les âmes, les pierres que David a utilisées, ce sont des attitudes. Les pierres, les âmes là, ce sont des attitudes. Face à une situation difficile, arrête de on ne se précipite pas. La précipitation conduit à prendre une mauvaise décision. David a pris le temps de poser toutes les questions. David a pris le temps et ensuite l'a parlé et il s'est mis en marche. David ne s'est pas précipité, il n'est pas arrivé. Et puis il se lève, il court. Le gars allait le tuer.
Amen.
Goliath exerce ou règne par la peur. Donc, pour vaincre Goliath, il faut terrasser la peur. Amen, amen. Dieu peut résoudre tout par vous. Le bâton de commandement vient dans la vie d'une personne qui ne trouve pas dans les circonstances des excuses, mais qui s'appuie sur Dieu pour les affronter. Arrête de te plaindre. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que les gens ont peur? Les gens ont peur parfois parce que il y a des trésors terrestres qu'ils veulent conserver. Vous savez ça? Peur de ne jamais avoir trop d'argent avant de mourir. Peur de ne jamais avoir un mari avant de mourir. Peur de ne jamais construire une maison à ma mère avant de mourir. Peur de ne pas avoir d'enfant et puis mourir. Peur même de que sa femme meure, que tu meurs et puis ta femme a resté dans la main de quelqu'un d'autre. Non, c'est des peurs qui traversent les gens. C'est quel garçon qui n'a pas peur de ça? J'ai dit à ma femme, si tu te remaries, si elle meurt que tu te remaries, il est sorti dans tes rêves. Vivant, le jour où tu te maries dans la chambre de noces, là, je suis là comme ça. Puis tu entends, adultère. Alléluia. Mais je ne vais pas mourir. Je vivrai ma femme. On mourra ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui te fait peur? Mourir sans enfant? Sans être marié? Alléluia. Mourir sans maison? Sans donner de bien à tes enfants? Est-ce que tu sais que ce dont tu as peur triomphe toujours de toi? Si tu vis en ayant cette peur, tu ne vas jamais réaliser cette chose. Impossible. Impossible. Ce dont tu as peur triomphe toujours de toi. Donc, si c'est une chose dont tu as peur, ça aide constamment dans ton cœur. Une femme qui dit, mon mari, j'ai peur que mon mari me trompe. Toujours tu es là, en train d'appeler ton mari. Quand il sort un peu, tu commences à l'appeler. Tu es où? Tu es à quel niveau? Tu viens? Tu es où? Il t'assure. Tu continues comme ça. Le mariage se base sur la confiance. Demandez aux femmes qui ont fait ça. Le résultat, ça a été quoi? Ce dont tu as peur, t'arrive toujours. Alléluia. Gloire à Dieu. N'aie pas peur. Amen. Dis à ton voisin, marche avec confiance. Marche avec foi. Ne regarde pas Goliath. Regarde ton Dieu. Regarde à la force de Dieu, à la puissance de Dieu. Et puis l'une des choses que je veux vous dire, Goliath n'est pas une situation de groupe. Donc ne va pas prendre des supporters dans ton Goliath. Goliath n'est pas une situation de groupe. Goliath est une situation individuelle. Donc quand tu as une situation individuelle, coriace, opiniâtre, difficilement enlevable, frère, assois-toi, va appliquer ce que je dis. Tu vas vaincre ton Goliath sans même inviter une personne dans ta situation. Mais tu prends ton problème, tu en dis à quelqu'un. Au lieu de t'aider dans la prière, il va dire à l'autre. L'autre, maintenant tu arrives dans l'église, tout le monde te regarde comme ça. Mais après, ça vous dit, l'église, là, les gens ne sont même pas bien. Ils ne peuvent même pas tenir leur langue. Je mens ailleurs. Mais ailleurs, tu vas partir, tu vas aller trouver pire. Tu vas trouver pire. Amen, amen, amen. Donc, pour triompher de la peur, il faut prier Dieu. Amen. Et demander au Seigneur, ôte de mon cœur la peur. Va devant le Seigneur. Seigneur, regarde, pourquoi est-ce que j'ai peur? Père, ôte-moi cette crainte. Il n'y a pas de peur dans Dieu. Mais lorsque tu mets un enfant au monde, si vous êtes là et puis tu cries un coup, l'enfant a commencé à crier. Il va avoir peur, il va trembler un coup. Ce sont pas des choses, c'est des choses qui héritent dans la nature de l'homme, mais qui ne viennent pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Amen. Donc, demande au Seigneur d'ôter ce sentiment. Et puis, compare le problème à Dieu. Et il faut avoir une attitude de louange et de magnificence, hein, devant les problèmes. Et puis, mets-toi en marche en bataille contre ton adversaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il faut triompher de ton Goliath. Dis avec moi, au nom de Jésus, je saisis mon bâton d'autorité. Et par ce bâton, la peur et la crainte sont bannies de mon cœur. Dans le nom de Jésus, qui m'a appelé et qui m'a oint pour aller au sommet, je cours vers mon Goliath et je l'assomme à la tête. Au nom de Jésus, je suis un roi. Je triomphe de toutes les situations opiniâtres devant moi. Au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer l'autre forme d'adversité et on va terminer dimanche prochain. Deuxième forme d'adversité, l'adversité hiérarchique. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque un patron, un président de la République, une autorité sur toi, ton mari, hein, est pour toi un adversaire. Alléluia. Un pasteur même. Alléluia. Vous savez, la hiérarchie, c'est quoi? C'est un système où une personne qui a une autorité légale sur toi. Ça peut être un pays, un père, un patron, un pasteur, un responsable hiérarchique. Amen. Il arrive que ces personnes-là s'acharnent sur ta vie. Ça arrive, et très souvent. Comment réagir? Nous allons étudier le cas de David pour comprendre comment réagir. Et Jésus a réagi de la même manière. Il faut comprendre que pour atteindre ta royauté, tu as croisé des anciens rois. Mais il faut pouvoir les vaincre d'une certaine façon, avec l'attitude. On ne combat pas une autorité comme on combat Goliath. Goliath est comme un démon qu'on coupe sa tête. Mais ton mari, tu ne peux pas te mettre dans la chambre pour dire « j'envoie le feu sur lui ». Le feu a retombé sur toi. Parce que quand tu as fait ça, c'est là qu'il va devenir même un lion dans la maison. On n'envoie pas le feu sur son père. Tu ne peux pas le lier. Non. David dit, tu ne peux pas lever la main sur le oint impunément. Impossible. Et la Bible nous dit que toute autorité a été établie par Dieu. Donc, peu importe la façon dont l'autorité est arrivée, qui l'a mis? Dieu. Peu importe le mariage, comment ça a été fait, même si c'est toi qui allais draguer le monsieur. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et c'est lui qui l'établit. Peu importe. Dieu, c'est un moissonneur. Il moissonne comme il veut. Même si tu penses, c'est Dieu qui a mis la pensée en toi. Vous voyez? Donc, toute chose que tu fais ou tu n'as pas désiré, et puis la chose s'est imposée à toi et il est au-dessus de toi, est une autorité. Il y a une façon d'agir avec elle. Jamais agir comme on agit avec Goliath contre une autorité. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. La deuxième pierre de David a été celle utilisée pour vaincre ce géant. C'est l'attitude vis-à-vis de l'autorité. Le but du diable est de vous amener à mépriser une autorité en souillant le cœur de l'autorité contre vous. Ou bien, il t'amène à le mépriser et cherchant à te rendre comme l'autorité. Cherchant à corrompre ton cœur. Je vous ai dit, pour que Dieu puisse faire du miracle avec toi, pour qu'il pose son onction sur toi, c'est quoi il regarde? Voilà. Et ce que le diable vise, c'est ce que Dieu regarde là, que le diable vise. Samuel 24, verset 2 au verset 3. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici David est dans le désert d'Engedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite, dit avec un homme d'élite, sur tout Israël. Ça veut dire qu'il a fait quoi? Il a fait un recrutement. Il dit sur tout Israël. Il a fait appel de... Sélectionner les hommes d'élite dans tout Israël. Il a pris le temps de les sélectionner. Parce qu'il voulait des soldats à la dimension de David. Hey! 3000 contre le petit garçon David. Force spéciale. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché sur la colline de Hakila? Il y a toujours des gens comme ça qui seront dans ta vie pour t'exposer toujours. En face du désert, mais ces personnes laissent les dieux les traiter. Saül se leva. Toi, ton action à faire, ce n'est pas d'aller contre eux, contre la chaîne et le sang. Ces personnes, hein, laisse Dieu les traiter. Va traiter ton attitude. C'est ton attitude. Parce qu'il dit, il va citer la cuirasse, tant. Mais les cuirasses, tout cela, c'est des attitudes. La justice, c'est attitude. Zèle, attitude. Vérité, attitude. Ça n'a rien de physique, poignard, épée, fusil, rien du tout. Ce que tu mets sur ta tête, je prends les casses, et puis toi tu vois un casse, cuirasse, tant, et puis tu dis, je coupe. Frère, il faut quitter dans ça. Dieu dit, va te revêtir d'attitude. Va travailler sur quoi? Tes vêtus. Va travailler sur ton cœur. Va travailler sur ta tempérance, sur ta maîtrise de soi. Va travailler sur ta douceur. Va travailler sur ton amour. Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes d'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Alléluia. Vous voyez, par deux fois, dans 1 Samuel 24 et 1 Samuel 26, Saül va aller contre David. Mais vous allez voir l'attitude de David. Et Dieu a exposé par deux fois Saül à la merci de David. David pouvait dire, si David était comme l'un d'entre nous, il allait dire, voici la réponse de Dieu à ma prière. Il a livré mon ennemi aujourd'hui. Et puis on prend le couteau, on tchac. Vous voyez? Ou bien tu vois la faiblesse de ton patron, tu prends le dossier de ton patron, tu vas chez le boss là-bas. Pour aller présenter. Voilà, tout à l'heure, quand il dit tchak là, c'est ce que tu fais là. C'est ça qui est tchak là. Comprenez, non? Hier, dans la réunion qu'on a fait, je vous ai dit, si je t'appelle, et puis je pose une question, je dis, ton GA là, comment il est? Il est ceci, il est cela. Qu'est-ce que tu dois faire? Vous n'étiez pas là, vous avez oublié. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je n'ai pas dit de couvrir les péchés, hein. Mais ton GA, tu ne l'exposes pas pour que Dieu, pour que ton patient n'a qu'à te voir pour le futur GA. Tu es déçu même. Parce que moi, peut-être je ne vais pas voir. Mon cœur dit, ce gars est bon, hein, ça, ce petit-là, il est bien. Il a des aptitudes, mais Dieu t'a déçu il y a longtemps. Au moment où il voulait te prendre, Dieu va dire non. Gloire à Dieu.
Amen.
Gloire à Dieu. Alléluia.
On ne lie pas une domination ou une autorité. Tu ne peux pas lier ton président de la République. Oui. Tu n'as même pas le droit. Tu peux prier contre les esprits qui influencent, les dominations qui influencent ses pensées. Tu ne peux pas te lever, je lis l'ego. Je lis l'ego. Jamais cette parole ne sort de ta bouche. Pas à vase d'honneur. On ne lit pas son mari, on ne lit pas l'autorité. On ne coupe pas sa tête. Dieu a une méthode pour gérer les autorités. Est-ce que nous allons voir? Comment gérer l'adversité quand elle vient d'une autorité? Amen. Vous savez, lorsque Paul et Pierre vont écrire « Soyez soumis aux autorités », ces deux personnes ont été les personnes les plus persécutées en Israël et en dehors d'Israël. Et c'est pendant le moment où on les persécutait, où on les poursuivait. Paul, parfois, dans une muraille, on prend Paul, on descend Paul. Souvent, les Israélites, à 40, ils font des guet-apens. Ils veulent tuer physiquement Paul. Mais Dieu le délivrait toujours. Mais est-ce que vous avez vu une seule fois dans les lettres de Paul parler mal des pharisiens? Les gens ont poussé Jésus à parler contre Pilate, contre César. Avez-vous entendu un jour Jésus parler mal de Pilate, de César? Il leur a dit, donnez ce qui est à César, ce qui est à César. Frère, l'autorité, on ne la gère pas comme on gère Goliath.
Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.
Vous ne pouvez pas lever la main impunément contre une autorité sans effet secondaire. Il faut noter ça. Il faut noter. Oui, oui, oui. J'ai mis ça pour que tu comprennes avec les médicaments. Tu ne peux pas lever la main, le doigt sur une autorité sans effet secondaire. Un professeur à l'université te donne la connaissance. C'est lui qui te donne la connaissance. Et toi, tu es là, au lieu de prendre la connaissance, c'est toi qui parles mal de lui tous les jours. Frère, le temps où les notes vont sortir, tu vas voir qui donne les notes. Jésus, face aux autorités, on envoie un problème d'autorité. Jésus, il va prêcher l'évangile. Il ne va pas dire un mot là-dessus. Il ne va pas dire un mot. Il va prêcher, il va faire ce qu'il a à faire, puis quitte là. David dit, ne touchez pas à l'oint de l'Éternel. Pourtant, ce oint-là était animé d'un mauvais esprit de Dieu. Dans 1 Samuel 18, la Bible dit qu'il a pris le javelot, l'a lancé contre David. Il voulait tuer David. Ça en prend 3000 personnes, là, vous pouvez voir. Il était animé d'un mauvais esprit. Mais quand David parle de lui, il dit, c'est le oint de l'Éternel. Dans 2 Samuel 1, lorsque David fait le deuil de Jonathan et de Saül, il appelait ça le cantique de l'arc. Allez-y, lis, vous allez voir, vous allez pleurer. Comment un homme qu'on a poursuivi pendant des années? David a été oint à quel âge? Il a attendu, c'est à l'âge de 30 ans qu'il a régné. Tous les 13 ans là. Bon, quelques temps, il était un peu au palais, mais après, c'était poursuite seulement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du bien à Israël. Parfois, vous allez faire du bien à des gens, ton patron même, mais c'est lui qui va chercher à t'abattre. Tu as l'impression que tous les biens que tu fais là, ça se retourne contre toi. Mais ce n'est pas une malédiction. Dieu est en train de t'envoyer quelque part. C'est parce qu'il veut t'envoyer là où il est. Mais il veut regarder quelque chose dans ton cœur. Bon, à plusieurs reprises, j'avais échoué. Là, j'avais échoué beaucoup de fois. Mais je dis, j'échoue plus dans ma vie. À cette étape de ma vie, j'échoue plus.
Gloire à Dieu. Regarde, Ecclésiaste 10, verset 4 dit une chose. Ecclésiaste 10, verset 4 dit ceci. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, il dit qu'est-ce que tu dois faire? Regarde, Ecclésiaste 10, verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car le calme prévient de grands péchés. Si ton patron est un mauvais patron, frère, voici une phrase que je vais te dire. Ça fait mal, hein? Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Reste à son service et couvre-le. Tu es chrétien? Tu veux suivre Jésus? Tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Réponds. Ok, fais ce que je te dis. Tu penses que Jésus a te dit, porte ta croix et suis-moi chaque jour. Pour quelle raison? Vous pensez que la croix, la porter, c'est facile? Vous pensez que c'est manger des cakes? Vous pensez que c'est manger du gâteau, du bois, du yaourt? La croix, vous savez ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il va dire, porte ta croix et suis-moi? Ton patron te maltraite, reste à ta place et couvre-le dans ton esprit. Vois un bon patron. Dis-toi que c'est un temps que Dieu est en train d'éprouver ton cœur. Dieu est en train d'éprouver ton cœur, mais Satan est en train d'utiliser ce patron-là pour vouloir souiller ton cœur. Parce que dans pas long, au contraire, ces genres de choses, nous, les chrétiens avertis, ces genres de choses doivent être pour nous des alertes, pour savoir que la royauté est tout près. Sais-le avec fidélité. Sois soumis. Et puis couvre-le. Quand ils ont vu Saül, les autres ils voulaient aller le tuer. David dit, stop, ne le touchez pas. Un homme peut-il porter la main sur le coin impunément? Non. David ne l'a pas touché. Bon, on va terminer dimanche prochain, parce que c'est un peu long. Alléluia. Donc, la première clé, reste au service du responsable et couvre-le. Alléluia. Donc, dimanche prochain, nous allons terminer ça. Et puis, certainement, terminer le reste, parce que le reste, c'est pas long.
Merci pour votre attention. Nous vous invitons à réécouter aussi souvent que possible ce message. Car la foi pour accomplir des exploits vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants du pasteur Lorenzo sont à votre entière disposition. Soyez bénis.